Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi mi senya, omani kobena.
It's okay, you know, it's okay.
Joy to the world, so glad the Lord has come. Let earth receive her King. You let every heart prepare Him room. And a heaven and a nature sing. And a heaven and a nature sing. And a heaven and a heaven and a heaven and a heaven and a nature sing. I said, joy to the world. So glad. Get me that song.
That song.
Give
song. Let me that song. Joy.
I feel that
wheels that flow.
What kills that play? Repeat.
Repeat the sound of joy.
Oh,
repeat.
Yeah, He rules the world. Yeah, He rules the world.
Truth and great.
Animate. He made
the nation
prove.
The glory
of His righteousness.
Shine
and a wonder.
And a wonder.
Ooh,
wonder.
And a wonder.
Yeah,
a wonder.
And a wonder.
And a wonder. And a wonder.
Yeah,
I said, joy
to the world.
I'm so glad the Lord has come.
Let
her
receive
her King.
C'est un bond de 50 ans dans le passé que nous vous proposons ce jour. En avril 1966, la ville de Dakar au Sénégal accueillait le premier festival mondial des arts nègres où se sont produits des dizaines d'artistes, danseurs, chorégraphes, musiciens, dont Marion Williams, que vous venez d'entendre, mais aussi Josephine Baker et Duke Ellington. Pour évoquer cet événement panafricain historique, nous avons convié deux interlocuteurs de choix. Sarah Friou-Salgas, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avec Dominique Malaquet et Cédric Vincent, l'une des commissaires de l'exposition Dakar 66, qui se tient au musée du Quai Branly à Paris depuis le 16 février, et également responsable des archives et de la documentation des collections à la médiathèque du musée du Quai Branly. Rien que ça.
Exactement.
À vos côtés, un chanteur-compositeur sénégalais de renom, ancien pilier du groupe Daradji et auteur d'un album qui a fait sensation en 2015, Gospel Journey, Fada Freddy, soyez le bienvenu.
Merci, bonjour.
Avant toute chose, Sarah Friou, rappelez-nous la genèse et l'intention du premier Festival des Arts Nègres en 1966 à Dakar.
La genèse date de 1947, qui est l'année de la création de la revue Présence africaine par un Sénégalais, Alioune Diop, et qui va à la fois créer une revue, une maison d'édition, mais qui va aussi organiser deux événements historiques. Le premier congrès des artistes et des écrivains noirs qui s'est tenu à Paris en septembre 1956, et le second à Rome en 1959, où justement les intellectuels, les militants présents à Rome, dans la commission culture, s'était dit que au moment des indépendances, il faudrait qu'un pays prenne en charge l'organisation d'un grand festival culturel, donc panafricain. Et Senghor décide de prendre en charge ce festival. Alors, il va y avoir plusieurs étapes. À la première, ça devait d'abord avoir lieu en 61, puis en 63, puis pour des tas de raisons, il aura lieu en 66.
Voilà. Pourquoi cette manifestation a été un moment fort de l'histoire du peuple noir ?
Parce que c'est le premier grand événement culturel organisé après les indépendances en Afrique, le fruit d'années de réflexion d'intellectuels et de militants, et qu'il va rassembler toute une grande partie de l'Afrique noire. Alors après, et justement pas que de l'Afrique noire, d'où le terme panafricain, il y aura également des Brésiliens, des Haïtiens, des Noirs américains, mais une partie de l'Afrique n'était pas là, notamment une Afrique qui était en cours d'indépendance avec les pays lusophones notamment. C'est ce qu'on reprochera aussi à Léopold Sédar Senghor de ne pas avoir invité, ou les gens n'ont peut-être pas voulu y venir, on ne sait pas trop, mais c'est un des reproches qu'on a pu faire à ce festival.
Fada Freddy, vous êtes né en 75, oui. Bien après ce rendez-vous culturel majeur, mais que symbolise pour vous cette réunion de toutes les forces vives de la culture noire?
Pour moi, c'est une réunion qui est très très importante, parce que c'est venu juste à la période des indépendances, donc dès 1960, parce que nous, au Sénégal, on a acquis effectivement notre indépendance en 59, et ça a été confirmé en 1960. De 60 à 66, il n'y a pas beaucoup d'années. Donc pour moi, ceci symbolise quand même une réactualisation du statut du noir dans son propre pays, dans ses propres terres. C'est un festival que d'aucuns auraient vu d'envergure internationale, avec comme participants effectivement les pays lusophones et autres, pour montrer que la diaspora était là. Je pense que ceci vient de l'intention de la négritude, où on voyait des gens comme Césaire ou Senghor être au devant, même Alioune Diop. Et donc, c'était une manière de repositionner pour moi la culture africaine en tant que telle, parce que Senghor était un poète et aussi un homme de culture. Donc, c'était un homme qui, à travers ses voyages, même quand c'était diplomatique, qui mettait en valeur et qui voyageait avec des artistes du théâtre national, Daniel Sorano. Donc, c'est quelqu'un, un homme de culture, qui voulait aussi mettre en valeur la culture africaine en tant que telle. Et de ce que j'ai reçu de l'héritage du pays, c'est un festival qui en valait la peine, qui a permis aux Africains en tant que tels de se réintégrer, de se réapproprier de leur propre culture, une culture qui n'est pas une culture partielle, une culture seulement sénégalaise avec des Wolofs et des Sérères et des ethnies différentes, mais qui pouvait ouvrir les Africains en tant que tels à se connaître. C'est comme une représentation, après la séparation du gâteau de Bismarck en tant que tel, de ramener vers une culture commune. Et je pense que c'est ce que le Festival des Arnaques voulait un peu symboliser.
On en parlait dans votre famille?
Mon père m'en a parlé. Mon père était un proche de Cheikh Anta Diop. Dans la famille, effectivement, il y avait des débats sur les scientifiques africains, l'unité africaine. Il a aussi travaillé aux côtés d'Ibadir Thiam, qui aussi essayait de mettre en valeur les langues africaines, le swahili, le peul ou le wolof. Et donc voilà, c'est à ses côtés que j'ai appris un peu une bonne partie de l'histoire africaine.
Est-ce que cet événement a pu indirectement susciter votre envie d'être artiste, d'exprimer la valeur du patrimoine noir?
Je pense que ce que cet événement a fait, ça a revalorisé mon statut d'artiste africain et m'a réengagé dans mon devoir de mémoire de la culture africaine. Et j'ai compris au mieux que les artistes, ce sont les bibliothèques des temps modernes. C'est à travers eux que l'histoire de demain sera définie. Donc c'est à eux de garder la culture et de la transcender de manière positive, de sorte à ce que les générations futures puissent savoir à quel point nous avons marqué notre temps. C'est là justement l'intérêt d'être un acteur culturel.
Sarah Friou, Fada Freddy, nous allons écouter deux éminents orateurs qui ont œuvré ensemble pour la tenue de ce festival légendaire. André Malraux, ministre de la Culture du Général de Gaulle, et Léopold Sédar Senghor, alors président du Sénégal.
Nous voici donc dans l'histoire. Pour la première fois, un chef d'État prend entre ses mains périssables le destin d'un continent. Jamais il n'était arrivé, ni en Europe, ni en Asie, ni en Amérique, qu'un chef d'État dit « Ce qui est maintenant l'avenir de l'esprit, nous allons ensemble tenter de le faire. »
Pour revenir à l'art nègre, il est d'autant plus un que, et si sa fonction est de toujours actualiser son objet, je veux dire sa matière, sa nature par contre est de toujours exprimer cet objet avec les mêmes signes, dans le même style profond qui est précisément de le styliser. Il en résulte qu'on ne peut nier longtemps l'art nègre. D'autant que ce sont les Européens eux-mêmes qui les premiers l'ont découvert et défini, les Négro-Africains préféraient le vivre. Ce sont les plus éminents des artistes et des écrivains européens qui l'ont défendu, de Pablo Picasso à André Malraux, dont je salue ici le témoignage probant.
Sarah Friot, est-ce qu'au-delà de l'affirmation d'une culture noire, ce festival avait une dimension politique, voire géopolitique ?
En effet, il y a la facette du festival dont on vient de parler, l'importance symbolique très très forte du premier grand festival culturel en Afrique, enfin où tous les gens qui avaient cette ambition-là avant les indépendances mettaient vraiment en place leurs projets, parce que là c'était panafricain et toute l'Afrique était présente, dans des enjeux géopolitiques plus mondiaux, et notamment les années 60, c'est la guerre froide, c'est les enjeux Est-Ouest. Et ce qui est intéressant, c'est là on a entendu donc Malraux et Senghor, donc on associe souvent ce festival à ce binôme, disons. Mais nous, comme on est parti des archives produites par le festival, de tout ce qui a été fait sur le festival, tout ceci révèle vraiment quelque chose de plus complexe, et notamment la présence soviétique et américaine à Dakar. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les soviétiques n'avaient pas de délégation officielle, contrairement aux États-Unis, où une délégation d'intellectuels africains-américains était là. Mais on s'est rendu compte que les Africains-américains qui étaient présents à Dakar n'étaient pas les plus engagés aux États-Unis, mais que tout ça avait été plus ou moins cadré par la CIA. Enfin, ça, c'est des hypothèses, mais a priori, c'est ça. On a un témoignage, d'ailleurs, dans l'exposition. Et l'autre chose qui est intéressante pour nous, c'était ce film soviétique qu'on présente également, Rythme d'Afrique, qui montre aussi les liens entre Senghor et l'Union soviétique, car notre recherche autour de ce film a révélé plusieurs choses. Déjà que Senghor était allé en Union soviétique en 63, il y avait des accords commerciaux avec ce pays très tôt, et que l'Union soviétique va prêter un très gros bateau, le Rossiya, qui sera un hôtel flottant au cours du festival, où des festivaliers vont pouvoir loger. Donc il y a ce film, ce bateau, et la présence de deux poètes russes qui étaient là. Donc il y a eu plusieurs nuits poétiques soviétiques. Donc là aussi, ce qui est intéressant, là, pour revenir sur les propos précédents, c'est les liens entre la poésie, la politique, etc., des grands poètes russes. Ce film, ce documentaire, qui est un documentaire très classique à la soviétique, très beau, sur le festival en couleur, contrairement au film américain, ce qui voulait dire beaucoup de choses. Et ce grand bateau. Et dans les deux cas, ces deux films, en fait, ont été projetés en général dans les ambassades africaines, parce que c'était pour les États-Unis comme pour l'Union soviétique l'occasion un peu de promouvoir les politiques de ces deux pays à un moment où les États africains étaient en train de se construire et devaient aussi un peu trouver des alliés.
Ça rejoint justement la question que j'allais vous poser, Fada Freddy. Est-ce qu'un musicien doit être un acteur politique ?
Oui, par la force des choses. C'est-à-dire que même s'il dit qu'il est apolitique, il a de l'influence sur un ou des pays, donc il est obligé, par devoir, de contribuer à stabiliser ce dont parlait Cheikh Anta Diop, c'est l'ouverture et l'enracinement. L'enracinement dans son histoire, dans sa culture, en même temps avoir l'ouverture pour non seulement pouvoir appréhender, connaître le reste du monde, mais pouvoir aussi s'intégrer, que nous le voyons ou non. D'autant plus que nous avons un impact social et politique, parce que en tant qu'intervenant dans un groupe de rap qui s'appelle Daradji, on a fait changer d'avis le peuple pour voter massivement contre un État qui avait régné plus de 30 ans. Qu'on le veuille ou non, nous avons un impact politique. Et dès lors, il y a très très vite ce qu'on appelle la récupération politique. C'est exactement ce qui est en train de se passer en ce moment.
Diriez-vous que la présence de Josephine Baker et de Duke Ellington en 66 à Dakar avait une signification politique ?
Oui, ça renoue les liens qu'avait brisé l'esclavage. C'est un exemple de ce que Kwame Nkrumah, de ce que Patrice Lumumba et autres voulaient faire, avoir une Afrique réunie. On parle d'Afrique réunie, oui, politiquement c'est difficile, mais culturellement c'est plus facile, c'est faisable. Donc raison pour laquelle, quand on voit qu'il y a une alliance culturelle de la diaspora africaine, y compris les Afro-Américains et autres, je pense que c'est le début d'une unité à travers la culture.
En cherchant dans les archives de l'INA, nous avons trouvé un extrait de la prestation de Duke Ellington à Dakar le mardi 5 avril 1966, un véritable document inscrit dans l'épopée des musiques noires. Thank you. Quelques notes extraites du concert que donnait le Duke Ellington Orchestra le 5 avril 1966 à Dakar au Sénégal dans le cadre du premier festival mondial des arts nègres qui se tenait donc il y a 50 ans et que nous évoquons aujourd'hui avec Sarah Friou-Salgas, commissaire de l'exposition Dakar 66 du musée du Quai Branly, et Fada Freddy, chanteur sénégalais de grand talent. Comment interprétez-vous la venue d'Américains noirs à Dakar en 66, Sarah Friou?
Je ne sais pas comment l'interpréter. Après ce que je disais tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est que c'est des grands artistes, mais ce n'est pas les grands artistes les plus militants. Et c'est d'autant plus intéressant que les années 60 aux États-Unis, hein, il y a la lutte des droits civiques qu'on connaît, mais il y a aussi des mouvements beaucoup plus radicaux qui vont apparaître en 66, et notamment la naissance du mouvement Black Panthers, hein, qui naît en octobre 66, donc c'est quelques mois après. Mais ça veut dire qu'aussi aux États-Unis, il y avait des gens qui avaient décidé de se battre autrement, et qui aussi était solidaire de l'Afrique, mais d'une manière plus radicale, disons moins fantasmée. Parce que le film de Grieve qu'on projette, c'est intéressant, c'est aussi le fantasme d'un Africain-Américain sur l'Afrique, hein, on le sent dans la forme du film, dans la voix, etc., ce qui est très beau et très émouvant. Mais en même temps, d'autres gens aux États-Unis étaient, eux, soutenaient plutôt les luttes politiques africaines, qui étaient aussi notamment dans les pays lusophones à ce moment-là.
Fada Freddy, en 1999, sur l'album Khalima de votre ancien groupe, Daradji, il y avait un discours de Joseph Ndiaye, le conservateur de la maison des esclaves sur l'île de Gorée. Pourquoi aviez-vous choisi de faire entendre cette voix et ces mots-là sur ce disque?
Parce qu'on a un devoir de mémoire, pas envers le Sénégal ou l'Afrique, mais envers le monde, pour que juste que la mémoire soit respectée et que l'histoire ne soit pas pervertie. Donc c'est une manière pour nous, du moment qu'il était vivant, on en a profité, on l'a dit, papa, vous n'avez jamais eu l'occasion d'aller en studio, c'est ce qu'on veut faire avec vous. On veut ce que le discours que vous donnez, l'histoire que vous racontez, quand on visite la maison des esclaves, on veut l'imprimer dans le temps pour que ce ne soit pas falsifié dans le futur. C'est juste pour un devoir de mémoire, voilà.
Eh bien, c'est le cas, il a été imprimé dans le temps, comme vous dites. Écoutons un extrait de ce discours exemplaire.
L'histoire ne ment pas. La traite des Noirs fut un des plus grands génocides que l'humanité ait jamais connu. Et ce sanctuaire africain, qu'est la maison des esclaves de Gorée, fut capital de souffrances et de larmes, car des innocents sont morts ici, victimes du temps de la honte. Pendant 3 siècles et sans répit, chassés, traqués, arrachés à leur sol natal comme les racines des temps, sous la torture et l'humiliation, transfert brutal et massif de millions de Noirs, sur lequel la quasi-totalité du Nouveau Monde construisit ses réalités politiques, économiques et sociales.
Le regretté Joseph Ndiaye, disparu en 2009, mais qui 10 ans plus tôt s'exprimait sur l'album Khalima de Daradji. Qu'éprouvez-vous en réécoutant cette voix, Fada Freddy?
Je vois le monde d'aujourd'hui. Je vois le monde d'aujourd'hui, je comprends mieux les économies, je comprends mieux tout ce qui se fait, je comprends les immigrations, les voyages, je comprends pourquoi les Africains s'embarquent dans des bateaux de fortune à vouloir venir ici, en croyant que l'Europe c'est l'Eldorado, et je comprends tout ceci. Parce qu'il y a une partie de l'histoire qui est très révélatrice et qui nous montre que ce n'est pas par hasard que les Africains, au prix de leur vie, sont capables de partir, affronter la mort dans les océans pour venir en Europe ou aux États-Unis. Voilà.
Sarah Friou, est-ce que le Festival des Arts Nègres de 66 peut être vu comme l'aboutissement du combat des Noirs après 4 siècles d'esclavage?
Alors, je ne sais pas, parce que c'est un des aboutissements de la prise de parole, surtout qui s'est fait autour de Présence Africaine et d'Alun Diop au moment, juste après la Seconde Guerre mondiale. C'est la décision d'un pays de Sangor de prendre en charge toute cette question-là, mais l'aboutissement, c'est pas terminé, à mon avis. C'est une des étapes, disons. Parce que c'est surtout qu'il y a eu 66, ensuite il y a eu 69 à Alger, 77 à Lagos. Après, c'est plein de choses. Mais c'est une première pierre, disons, qui est vraiment majeure. Voilà, parce que c'est la première pierre, la première étape d'une reprise de parole des intellectuels et des militants africains en Afrique, sur eux-mêmes.
Fada Freddy, est-ce que l'art est une forme d'exutoire, de libération spirituelle?
Dans mon cas, oui. L'art est une manière pour moi de me connecter avec le cœur de l'univers. Et mieux de parler aussi aux âmes, parce que pour moi, il y a deux langages. Il y a le langage extérieur, qui est celui du verbe, et il y a le langage intérieur, c'est la diffusion de l'énergie, et que pour moi aussi est une autre forme de musique à travers les ondes. Voilà.
Sur votre dernier album, Gospel Journey, il y a un titre qui m'a interpellé, c'est Lost. Qu'avez-vous essayé de transmettre à travers cette chanson ?
Lost, c'est un morceau qui parle de quelqu'un qui a fermé les yeux sur ses propres possibilités, sur son potentiel, et qui petit à petit commence à réaliser que la seule personne qui avait mis des nuages sombres au-dessus de sa tête, c'était elle-même. Parfois, c'est nous qui nous mettons le voile devant les yeux avec juste des idées négatives et en nous disant que nous ne pouvons pas atteindre nos rêves. Tant qu'on est en vie, tout est à portée de main. Il faut juste œuvrer, il faut se donner la peine et tous les rêves sont réalisables.
Écoutons cette belle composition qui résume assez justement l'humeur de cette émission.
Lost in the dark for so long, I was blind in my mind, but now I realize I can open my eyes and see it was me all along who was accusing the darkness when I was the one blocking out my sun. I stood for so long, waiting for my sheep to come. I was washed up and used, I was trampled and bruised, but hear the news. Every little moment, you spend on a worry, you spend on a fear, you just give it room to grow. To take back your fear, your worry. Don't come round here no more, knowing I'll stop accusing when there's no divine. Tell me where would it hide?
Lost, extrait de Gospel Journey signé Fada Freddy. Vous avez abandonné le rap pour une musicalité plus gospel. Pourquoi la rébellion du mouvement hip-hop ne correspondait plus à votre humeur plus paisible du moment?
J'ai pris des morceaux de rap que j'ai converti soul dans cet album avec un morceau comme Borombi. J'ai des influences du hip-hop, la musique qui m'a montré un peu comment utiliser le beatbox par exemple, ce que je fais toujours. J'avoue que j'ai grandi avec la soul, j'ai grandi avec la musique de Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Aretha Franklin, c'est ce qu'écoutait ma mère. Et donc je ne savais même pas que c'était de l'anglais, pour moi c'était du Wolof. Voilà, il n'y avait pas de langue précise pour la musique que je fais. C'est la raison pour laquelle j'ai naturellement chanté en anglais depuis que j'étais petit.
Est-ce que le rap fait partie des arts nègres ?
Oui, le rap fait partie des arts nègres et j'en ai souvent parlé aux États-Unis dans des conférences et un peu partout en disant qu'en fait, le rap, c'est le griotisme moderne. Le rap, ce sont des rhapsodies saccadées et c'est effectivement ce que faisaient les griots à l'époque avec le tassou, le kébétou et le bakou qui sont les ancêtres du rap. Voilà. Et puis si on se réfère au premier groupe de rap africain, il y avait les Grandmaster Flash, mais à côté il y avait les Zulu Nation. Et donc il y a une référence africaine, Afrika Bambaataa. Et donc c'est aussi une référence africaine. Et récemment au Festival des Arts Nègres, ils avaient invité Busta Rhymes, qui est un des meilleurs rappeurs américains.
En 2010.
Ouais, en 2010. Et aussi il y avait Rick Ross, qui n'a rien à voir avec Busta Rhymes, qui prône le bling-bling et tout, mais qui était quand même là. Donc ça veut dire que les raps se valent très très bien dans le champ de l'expression des arts nègres.
En tout cas, puisque ce festival apparaît à peu près tous les 15 ans, le prochain devrait avoir lieu donc à Dakar en 2025.
Bah franchement,
et vous y serez bien sûr, Fada Freddy.
Bah j'espère.
Vous serez peut-être même le président de ce festival d'ici là.
Bah pourquoi pas. En tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'il est important de perpétuer ce type de festival et d'inviter le monde entier à venir et à se mélanger. Parce que comme je le dis souvent, être africain, ce n'est pas une question de couleur, c'est une question de sentiment et d'attachement par rapport aux valeurs de la terre africaine.
Quoi qu'il en soit, si vous voulez en savoir plus sur l'origine de la première édition du Festival mondial des arts nègres qui a eu lieu donc il y a 50 ans, je vous recommande chaudement de vous rendre jusqu'au 15 mai au musée du Quai Branly à Paris pour découvrir l'exposition Dakar 66. Vous y êtes rendu, Fada Freddy ?
Je compte justement y aller parce que je sens que j'ai encore des choses à apprendre. Je veux rentrer dans les détails de l'histoire et connaître les profondeurs, les entrailles du Festival mondial des arts nègres.
Je rappelle en tout cas que Fada Freddy, vous êtes actuellement en tournée en France jusqu'à fin juillet, ce qui explique peut-être d'ailleurs que vous n'avez pas eu le temps d'aller voir l'exposition Dakar 66, et que vous serez le 26 mai à Paris, oui, au Zénith. Toutes les dates sur fadafreddy.com. Merci à tous les deux et au plaisir de nous revoir ici même pour évoquer d'autres sujets passionnants de l'épopée des musiques noires. Merci à vous.
Merci.
Avant de se quitter, ayons une pensée pour Papa Wemba et Billy Paul qui nous ont quittés cette semaine. Nous tâcherons de ne pas les oublier au fil des semaines dans l'épopée. Nul doute que le festival Jazz sous les pommiers qui commence ce week-end à Coutances dans le nord-ouest de la France saura honorer les icônes qui s'en vont. Nous nous y rendrons d'ailleurs ces prochains jours pour recueillir les propos de leurs contemporains. L'émission du jour était réalisée par la vaillante et irréprochable Nathalie Laporte. Passez une bonne semaine. On se retrouve dans 8 jours, dans 30 secondes, le journal.